Thibaut de Saumeuris, devenir soi, c'est un sujet du bac hein, pour votre petite philosophie de la vie quotidienne.
Oui, mais comme je vous le disais, je crois que ce matin, je vais vous proposer de voir les choses un petit peu autrement, avec l'envie donc de mettre un peu les pieds dans le plat hein, de notre discussion en posant donc cette question un peu différemment. On l'a dit, devenir ce qu'on est, c'est une des grandes promesses de la philosophie et c'est aussi une perspective apparemment assez séduisante hein, pour qui découvre la question. Mais n'est-ce pas aussi un peu risqué ? Après tout, pourquoi devrions-nous devenir nous-mêmes ? Pourquoi en avons-nous besoin ? Devenir soi-même, n'est-ce pas aussi une injonction, un impératif, une pression finalement qui s'impose à moi ? D'où vient donc que nous ayons à devenir nous-mêmes ? Alors vous allez me dire que j'ai vraiment envie de couper les cheveux en 4, en 8, voire en 12. Mais je me fais simplement l'écho d'une méthode d'analyse philosophique un peu particulière qui a été inventée par Nietzsche, qui est reprise ensuite par Foucault. On l'appelle la méthode généalogique ou archéologique. C'est une méthode apparemment un peu insolente, mais qui consiste simplement à analyser la façon et les raisons pour lesquelles ce qui nous paraît évident s'impose à nous comme une évidence.
Thibaut de Saumeuris, il faudrait donc ne pas devenir soi-même.
Disons que cette belle promesse peut aussi être comprise comme une contrainte qui s'impose à nous et comme un effet d'une domination ou d'un rapport de pouvoir. Pour expliquer ça, le philosophe Michel Foucault crée le concept d'assujettissement. Il montre par exemple dans son Histoire de la sexualité comment la médecine, la religion, les pouvoirs politiques se donnent du pouvoir sur les individus en leur demandant de produire une vérité sur eux-mêmes, c'est-à-dire en leur demandant de dire, d'avouer ce qu'ils sont. Devenir soi-même, c'est alors me présenter comme sujet de ce que je dis ou de ce que je fais, mais ça, ça n'est possible que en m'assujettissant, c'est-à-dire en devenant sujet d'un pouvoir auquel je me soumets. On comprend donc qu'il y a une histoire, une construction et des dispositifs pour me pousser à devenir un « moi-même » entre guillemets définissable, délimitable, identifiable, dont les différents pouvoirs ont besoin pour pouvoir le contrôler. Pour le dire vite, c'est un peu comme si nous étions tous complices de notre propre étiquetage. Alors les étiquettes, ça peut être la virilité, la féminité, l'hétérosexualité, l'homosexualité, la folie, la normalité, bref. Tous ces grands partages qui permettent de ranger les individus différents que nous sommes tous dans des cases déterminées. Alors à partir de là, on voit bien, je crois, le double tranchant de cette invitation à devenir soi-même. Parce que la promesse d'épanouissement, de réconciliation avec soi, de sagesse, de réalisation de soi qu'elle abrite, c'est aussi une façon de répondre à des effets de pouvoir et de contrôle. Si je deviens ce moi que l'on m'invite à devenir, je m'attache en quelque sorte à une identité dont il sera ensuite difficile de se défaire. Si je deviens ce que je suis, je ne peux plus tout à fait devenir autre chose. Je me retrouve identifié et identifiable et ça devient bien difficile d'être reconnu pour ce que l'on pourrait être d'autre au hasard des circonstances de la vie. On attend de moi que je sois le sujet aux commandes de moi-même, un sujet responsable de ma vie, de mes relations avec les autres et avec le monde, alors que, on le sait bien, les choses ne sont pas toujours si simples. Voilà, au fond, il faut être aussi capable de résister, je crois, à cette invitation à devenir soi-même, résister à des dispositifs d'identification publique, politique, trop réducteurs pour se libérer de ce qui s'impose à nous et pour ne pas que ce que l'on est, là, aujourd'hui, nous empêche de devenir en privé, dans nos vies, ce que l'on pourrait être demain, après-demain, et puis encore après-demain.